Chapitre 74. D'un coup de couteau, Joshua tranche le lien qui entrave les mains de Vincent. Le mage ne rencontre pas de prisonnier. Chacun se présente à lui en homme libre. Libre de partir, ironise Cavell. S'il le décide, oui. Vincent se frictionne les poignets, le sang recommence à circuler. Ne prends pas cette rencontre à la légère, l'avertit Joshua. Lorsque j'étais à ta place, elle a changé ma destinée. Ne provoque pas le mage. Ne lui mens pas, il le saura. Il peut faire parler les morts. J'en ai été le témoin. Il a le pouvoir de te faire vivre plus fort ou de te détruire. J'ai vu ceux qui en ont douté succomber sans même qu'il ait besoin de les toucher. La dévotion teintée d'admiration que témoigne Joshua envers son maître intrigue de plus en plus Vincent. Il est presque impatient de découvrir celui qui l'a fait naître. Il n'a pas à attendre longtemps. Quatre femmes en longues robes blanches font leur entrée dans la salle. Joshua invite Vincent à se lever. Elles sont très jeunes, très belles, et marchent d'un même pas lentement rythmé. Leurs tenues immaculées sont rehaussées de rubans rouges et or. L'une porte un plateau avec une carafe de cristal et des verres, une autre serre contre sa poitrine un épais livre visiblement ancien, la troisième tient un coffret en bois, et la dernière exhibe une sorte d'ostensoir présentant un fragment que Vincent n'arrive pas à identifier. Avec une solennité digne d'une procession, les jeunes femmes se positionnent aux quatre coins de l'estrade des trônes. Vincent s'attend à voir entrer un roi de carnaval et sa reine, mais ce sont quatre hommes qui font leur apparition. Très grands, musclés et vêtus comme des gladiateurs, ils portent les mêmes masques de cuir que celui qu'avait aperçu Vincent dans la cave de la maison de Flamel. Ils sont si massifs qu'ils ne remarquent pas tout d'abord les deux individus qu'ils encadrent. Mais lorsqu'ils les découvrent, leur apparence intrigue aussitôt Vincent. Crâne rasé, vêtus comme des prêtres antiques, ils portent des robes très simples, l'une noire et l'autre blanche. Le plus surprenant s'avère être leur ressemblance. Ils sont comme deux gouttes d'eau. Et si leur démarche laisse supposer qu'ils sont assez âgés, leurs traits sont bien plus jeunes. Vincent se dit d'abord que la cour du mage compte de bien étranges disciples jusqu'à ce que les jumeaux prennent place sur les trônes. Joshua s'incline en signe de déférence. Vincent lui demande à mi-voix.
Lequel est le mage?
Ils sont le mage. Bien que n'oubliant pas sa condition de captif et le pouvoir de vie ou de mort que ces deux êtres peuvent exercer sur lui, Vincent n'éprouve paradoxalement aucune crainte. Le folklore, le cérémonial et l'apparence même de ces deux individus évoquent davantage pour lui une pièce du théâtre classique ou un simulacre de messe qu'une audience qui pourrait changer sa vie. Les jumeaux possèdent des traits en tous points identiques. Leur crâne lisse et leur visage fin pourraient même laisser penser que ce sont des femmes. L'ambiguïté est entretenue par leur robe qui tient autant de la toge romaine que de la tunique grecque. Impossible de deviner leurs origines. Il suffirait d'un rien pour qu'on puisse les croire asiatiques ou orientaux. Cette impossibilité de les identifier par leur physique ou par leur sexe leur confère une aura aussi déstabilisante que fascinante. Leurs yeux sont pâles et de façon extraordinaire, chaque fois que le regard de l'un change de direction, l'autre fait de même, comme si un seul cerveau les commandait. L'être habillé en blanc s'exprime le premier. «
Je suis satisfait de vous rencontrer enfin dans des circonstances favorables au dialogue. »
L'autre enchaîne avec une déconcertante fluidité.
« Je sais tout ce que vous êtes en mesure d'apporter à notre confrérie et même si je suis certain de pouvoir vous offrir beaucoup, c'est d'abord moi qui ai besoin de vos talents. » Le blanc reprend sans rupture. J'ai compris mon erreur en laissant se fourvoyer ceux qui voulaient vous utiliser par la force. Vous n'êtes pas de ceux qui plient. Le moment est venu de vous en demander pardon et de tenter de vous convaincre. Vincent se sent mal à l'aise face à ces deux personnes qui disent « je » d'une voix identique. Les jumeaux se comportent comme s'ils n'étaient qu'un seul et même individu. La confrontation engendre une conséquence inédite, Cavell ne sait lequel regarder dans les yeux. Il ne sait d'ailleurs déjà plus lequel a dit quoi, comme si tout dans leur attitude conduisait à les fusionner. « Vous avez des questions à me poser, » déclare le blanc. « Faites-le sans crainte. »« Pouvez-vous lire dans mon esprit ?»« Pas comme vous l'imaginez, » répond le noir. « Je ne suis pas un phénomène de cirque. Je ne puis extraire vos pensées de votre tête. Mais lorsque nous échangeons, ma sensibilité détecte le degré de vérité qui nourrit vos propos. » L'autre précise, « Disons que je perçois avec une acuité particulière ce qu'il est convenu d'appeler la sincérité. » Vincent réagit, « J'ai pourtant cru comprendre que vous aviez le pouvoir de faire parler les morts. » Les deux s'immobilisent. Mieux, ils se statuent littéralement, comme si leurs esprits prenaient le temps de se coordonner à travers un lien invisible avant de réagir. Lorsqu'ils se remettent en mouvement, leurs gestes parfaitement similaires leur donnent l'allure d'automates. En quoi cela est-il important pour vous? Aimeriez-vous entrer en contact avec des disparus? Si cette éventualité pouvait paraître crédible aux yeux de Vincent, il serait certainement intéressé, mais en l'occurrence, il ne dévie pas de son idée. Plutôt que de compter sur moi pour débloquer le passage de Flamel, pourquoi ne pas avoir fait appel à son esprit pour vous en révéler le secret? Les deux mages sourient d'une façon si identique que cela en devient perturbant. Celui qui porte la robe noire répond « Doutez autant que vous le souhaitez, mais ne vous moquez pas. Libérez-vous du mépris, faute de quoi il vous empêchera toujours de découvrir ce que vous ignorez. » Le mage en blanc ajoute, « Je peux effectivement entrer en contact avec certains défunts, mais il me faut, pour cela, passer par l'intermédiaire d'un proche vivant, avec qui il aurait entretenu des liens étroits. Il n'existe plus personne ayant directement côtoyé Nicolas Flamel. Voilà pourquoi il m'est impossible d'en obtenir les réponses que je souhaite. » L'excuse est imparable, mais ne convainc pas Vincent pour autant. « Vous n'avez cependant pas répondu à ma question, » remarque le noir. « Aimeriez-vous entrer en contact avec des proches qui ne seraient plus de ce monde ?» En dépit de son scepticisme, la question trouve cette fois un écho dans le cœur de Vincent. Il songe malgré lui à son père, à Étienne Bégel, à Monsieur Robert Houdin. Il s'efforce de contenir l'émotion qui déferle en lui à l'idée de renouer le contact avec eux. Il n'est pas en situation de s'épancher. « Je sens un malaise en vous, » déclare le blanc. « Je le perçois clairement. Votre esprit n'est pas en paix, je le devine, et cette fragilité semble puiser sa source dans votre passé, ou plutôt dans un aspect de votre jeunesse dont vous avez été privé, » complète l'autre. Vincent les dévisage à tour de rôle, incrédule. Le blanc insiste. Ces âmes qui vous hantent, ne vous sont-elles d'aucun secours aujourd'hui? La dernière fois que Vincent a été ébranlé de la sorte, c'est lorsque Charles lui a révélé les secrets de son histoire liés à la perte de son père. Mais la situation était très différente. Addinson en avait eu connaissance par des moyens tout à fait rationnels et n'avait pas cherché à les mettre en scène. Ces deux énergumènes sont d'une autre engeance. Pour le déstabiliser, il pourrait très bien tenter d'exploiter ce que Joshua aurait réussi à espionner, ne serait-ce que lors de sa visite sur la tombe de Bégel. Vincent hésite. Même si jouer avec ses sentiments les plus intimes le gêne, il est prêt à tenter le coup pour voir jusqu'où ils seront capables d'aller. Il y a bien une question